ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon? Elle est bretonne?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon, si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Bonjour à tous, c'est Naomi de la librairie du Vent dans les Plumes.
Bonjour Naomi. Alors aujourd'hui, je crois que tu nous as préparé 4 livres. Et par quoi on va commencer alors?
Alors on va commencer par un petit essai philosophique que vraiment j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Aux éditions Flammarion, on le trouve en poche, maintenant il est sorti en poche. C'est un essai de Marion Garcia que j'ai trouvé super super intéressant. Donc Marion Garcia, elle est docteur en philosophie et enseignante à l'université de Yale. Elle a écrit d'autres bouquins dont La conversation des sexes autour du consentement sexuel, notamment dans les couples hétéros. Et dernièrement, juste vraiment il n'y a pas très longtemps, Vivre avec les hommes autour du procès Pellico. Alors, j'ai choisi cet essai-là parce que je l'ai trouvé super bien écrit, en fait. Très sobrement et clairement rédigé. Il est facile à lire, il est facile à comprendre. Et ce n'est pas toujours le cas dans les essais en sciences humaines où des fois c'est une lecture qui est un peu exigeante. Et là, en fait, ça se lit tout seul et c'est super agréable.
Il ne faut pas hésiter, il faut y aller.
Voilà, il faut se lancer. On s'enquille dans les premières pages et de là, ça coule tout seul. Elle revient en fait sur Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dont elle reprend un petit peu toute la trame et elle nous fait suivre le raisonnement qu'a mis en place Simone de Beauvoir, qui est super évidemment avant-gardiste, mais aussi très très intéressant, sur en fait l'expérience concrète que les femmes vont faire de la situation de soumission dans laquelle elles vont devoir s'adapter puisque plonger depuis toute petite. Donc elle va dans ce bouquin soulever plusieurs concepts, dont celui de la soumission, mais soumission en tant que pendant de la domination. On a tendance à parler beaucoup de domination masculine, beaucoup moins de soumission féminine, parce que c'est mal vu, et pourtant c'est bel et bien en fait ce qui se passe. Et pour ça, elle a énormément de références à des philosophes, par exemple la Boétie avec son discours sur la servitude volontaire, mais aussi toutes les réflexions de Rousseau, de Sartre autour de la liberté. Donc elle va nous plonger dans ces différents courants philosophiques, dans les méthodologies, mais c'est jamais lourd, c'est toujours au service en fait du concept qu'elle met en lumière. Moi, au départ, je suis beaucoup plus une lectrice de sociaux et c'est vrai que la philo, c'est pas quelque chose qui m'attire directement au premier abord. Et là, ça m'a clairement rabiboché avec cette discipline. Parce qu'en fait, ouais, là, le but de la philo, c'est de nous permettre de changer notre regard sur le monde, de voir les choses un petit peu différemment. Et clairement, ça marche. Ce bouquin, on n'en sort pas pareil avant de l'avoir lu et après, ça nous fait évoluer clairement. Et en plus, la conclusion, elle est très optimiste. Et ça ne gâche rien parce que voilà, il est tout à fait possible de penser une société égalitaire et sortir de ces schémas, de ces normes sociales de soumission et de domination.
Ouf, on est sur le bon chemin.
Oui, ça c'est sûr.
Ensuite, Naomi, je crois que tu nous as prévu une petite incursion dans les livres pour enfants avec Les Trésors de l'Atlantide.
Ouais. Alors, Les Trésors de l'Atlantide, alors c'est un livre qui est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un livre enquête, c'est un livre-jeu qui se lit à partir de 8 ans à peu près. Donc, il a été édité aux éditions De Coq d'Or. Il a été écrit par Virgile Thurier et illustré par Stéphanie Alastra. C'est un super beau livre, en fait. C'est un très bel objet livre à la base, avec de très belles finitions. Les illustrations de Stéphanie Alastra sont très fines, très belles, très colorées. Il y a des enveloppes à ouvrir, il y a une loupe. Donc voilà, l'objet même est beau et donc attire beaucoup les enfants. Il y a 5 cartes qui vont nous permettre de nous guider tout le long de l'aventure et 130 énigmes pour les enfants.
Oui, donc c'est pas un livre avec une seule énigme qu'on va utiliser une fois, il y a plein d'histoires à résoudre à l'intérieur.
Ouais, c'est ça. Plein d'histoires à résoudre à l'intérieur et c'est très long. Là, je vois mes enfants sont dessus depuis 2 mois, en fait, parce qu'ils prennent le temps, parce que voilà, ils le font à deux et ils se régalent. Et en fait, en plus, je trouve que les énigmes, elles sont hyper bien pensées pour des enfants de cet âge-là, donc je dirais 8-9 ans. T'as de la logique mathématique, t'as des jeux de lettres, des choses de déduction, etc. Donc c'est hyper différent et voilà, ils se régalent. Du coup, ouais, pour te faire le pitch rapidement, c'est donc le petit lecteur qui est l'enfant qui a ce livre entre les mains. Il est invité à partir à la recherche des mystérieuses cités, de la mystérieuse cité légendaire de l'Atlantide, qui aurait été engloutie par la mer il y a fort fort longtemps. Et c'est vrai que voilà, ce mythe de l'Atlantide, il continue à nous fasciner, petit, grand. Alors oui, là je vous parle de celui-là parce que vraiment je l'aime beaucoup, mais on a d'autres livres enquêtes avec d'autres thématiques suivant ce qui plaît aux enfants. On a les Cités d'Or, pour un peu plus jeune même, je crois que ça commence à 7 ans, les Cités d'Or. Il y a le château englouti, la forêt enchantée, enfin voilà, suivant l'univers de l'enfant, ils l'ont fait en plusieurs thématiques. Du coup, il y a des enveloppes qu'on ouvre, on découvre des cartes au fur et à mesure, donc il y en a 5 en tout, une par chapitre, et ça correspond à 5 lieux de la Méditerranée. Moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper chouette, hyper bien fait. Il te faut bien sûr des feuilles et un stylo à côté pour répondre aux énigmes et faire son petit carnet d'enquête. Voilà, mais de quoi se faire une super exploration.
Et on peut le faire en famille, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
C'est pour petits et grands, au final.
Oui, c'est ça.
On passe à ton petit coup de cœur bande dessinée.
Allez, alors mon petit coup de cœur bande dessinée s'appelle Vieille et il a été écrit et dessiné par Delphine Panic aux éditions Misma. Alors, c'est une BD sur la vie d'une femme qui est très 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 âgée. Mais il faut surtout pas oublier, c'est bien sûr dans le livre, que dans Vieille, il y a vie. Parce que cette petite dame là, elle est toute ridée, toute petite, toute difforme. Elle passe complètement inaperçue dans ce monde de grands, de jeunes. Soit elle passe inaperçue, soit quand on la regarde, c'est pour la plaindre ou c'est pour se moquer d'elle. Alors, oui, elle est seule, oui, elle est vieille, oui, elle a de la barbe, mais finalement, et alors ? C'est vraiment la leçon qu'elle nous donne, parce qu'elle aussi, elle est quelqu'un, elle aussi, elle a eu des amis, elle aussi, elle a été belle, elle aussi, elle a bourlingué de partout. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on passe à côté d'elle sans la calculer. Elle a traversé les époques. Aujourd'hui, elle est moins voyante qu'avant, mais elle est toujours là, et bien là, avec un humour acéré, avec des réflexions sur la vie qui sont super bien vues.
Et elle a des choses à raconter.
Et elle a des choses à raconter et dont on ferait bien de s'inspirer un peu. Finalement, en fait, à travers ce personnage, Delphine Panic. Donc Delphine Panic, on la connaît déjà hein, parce qu'elle a écrit 2 autres BD qui ont eu aussi un certain succès quand même, Creuset Vogué et Grand Cormoran. Et en fait voilà, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce personnage et dans cette manière de voir les choses, c'est qu'elle va explorer 2 regards finalement. Celui que la société porte sur nos vieux. Voilà, ils servent plus à rien, c'est comme s'ils n'existaient plus, il y a un truc un peu d'invisibilisation de la vieillesse. Donc ça, elle le montre bien et en fait, elle le tourne en ridicule même quelque part, parce que voilà. Et l'autre regard, c'est aussi celui qu'ont les plus vieilles personnes sur ce monde qui va vite, qui avance comme ça.
Un peu fou.
Un peu fou, ouais. Voilà, et qui les laisse de côté. Mais eux, ils s'en sont vus tellement dans leur vie que finalement, ils ont un regard hyper critique dessus et voilà, qui vaut le coup d'être entendu. Cette vieille, bon, elle n'a pas de nom, elle s'appelle Vieille. Hein, et c'est franchement, c'est un sacré personnage. Elle est libre, hein, elle est sans filtre et à la fois cruelle et touchante. Le dessin de Delphine Panic, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est minimaliste, mais elle arrive à donner avec 3 coups de crayon des expressions qui sont tellement parlantes que c'est vraiment très cool. Et les mots qu'elle utilise, qui sont lourds de sens. Ils mélangent un humour grinçant et en même temps une douceur mais infinie. J'ai été vraiment hyper, hyper touchée aussi par cette lecture-là. C'est à la fois très très drôle, super touchant et franchement philosophique quoi. C'est, pour moi c'est une prouesse qu'elle a faite là et je le recommande chaudement parce que voilà, pareil, ça nous aide à voir la vie encore un petit peu différemment et notamment on n'aura plus jamais le même regard sur les vieilles femmes qu'on croise dans la rue. Et voilà, ça c'est bien.
Et on finit cette chronique avec un roman, Chienne de garde.
Oh oui. Que tu as lu, Nina, je crois.
Oui, que j'ai lu, qui m'a beaucoup marquée.
Ah, ben voilà. Et ça m'étonne pas, parce que franchement, c'est un uppercut. Clairement, un uppercut littéraire qui nous est offert par Dalia de la Cerda, qu'on trouve aux éditions Le Point. C'est un petit roman, hein. Il est pas très long. Il est plutôt court, mais un petit roman...
J'ai envie de dire heureusement, parce qu'il est intense.
Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Il est petit en taille, mais il est gros par ce qu'il envoie, par ce qu'il dégage, par ce qu'il nous fait découvrir. Donc du coup, voilà, il va nous projeter au Mexique. Mais le Mexique des cartels, le Mexique des neurotrafiquants, de la politique corrompue, de l'extrême violence et de l'extrême misogynie qui peut régner dans ce pays-là. C'est un Mexique qui est carnassier, qui est sans pitié. C'est vraiment un monstre avide de sang et de chair féminine. Parce que c'est bien de ça dont il est question. Puisqu'effectivement, Dalia de la Cerda, elle va nous dresser le portrait de 13 femmes au sein de ce Mexique-là. C'est des femmes qui sont fortes, courageuses. Alors moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est ce langage qu'elle utilise, qui est trash, qui est hyper, hyper réaliste, qui est cru, qui est engagé, qui est parfois drôle, hein, qui amène quand même un peu de... Enfin, qui est tellement réaliste qu'on y est. Et qui va beaucoup emprunter aussi de la langue du peuple mexicain lui-même, avec des expressions en argot. À la fin, on a même un petit glossaire. Ça, j'ai bien aimé aussi, parce que ça nous permet de nous projeter encore plus, je trouve, dans la culture voilà, qu'on est en train de lire, avec certains mots en argot qu'elle va réutiliser parfois encore dans son texte. Donc, on va suivre les histoires de Juliana, de Regina, de Latina et de d'autres femmes. Et ces histoires, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont se percuter les unes les autres, elles vont résonner entre elles, et vraiment, elle va nous embarquer dans ça. Parce qu'en fait, ces femmes-là, elles ont toutes des expériences différentes. Il y en a une qui est migrante, une qui est héritière d'un cartel, une qui est tueur à gages, une qui est mère au foyer. Et finalement, à travers tous ces portraits, Dalia de la Cerda, elle nous donne à voir les différentes réalités sociales, politiques, culturelles du Mexique contemporain. Et c'est un voyage et c'est hyper intéressant, hyper enrichissant aussi, j'ai trouvé. Donc elle, Dalia de la Cerda, elle est journaliste et activiste féministe, voilà, bien connue au Mexique. C'est son premier roman. C'est un roman que voilà, j'ai trouvé percutant, embarquant et que je conseille chaudement. Alors oui, effectivement, à qui a envie quand même de choses un peu mouvementées, quoi. Hein, voilà.
Merci Naomi.
Merci à toi Nina.
On finit en musique ?
Ouais, volontiers. Et je vous propose du coup un titre d'un chanteur qui est pas très très connu mais qui mérite de l'être, je pense, qui s'appelle Jacques. Et ça s'appelle Avec les mots. Et voilà, qui, ma foi, pour conclure une chronique littéraire, ça me semble
parfait.
Tout à fait à propos. Merci beaucoup, bonne journée.
Une dédicace aux atomes dont je suis une formation. Perspicace, ils n'attendent pas que je donne la direction. Ça fuse dans les festos, manifester mon humanité. Ça croustille dans les restos, procrastine tout l'été. Mais quand on me demande ce que je fais dans ma vie, je me le demande aussi. Alors je tourne autour du pot, un peu du père, je ne peux pas dire que je ne sais pas trop. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, le silence n'est pas un souci. Parce qu'au fond de moi, je sais, mais je ne peux pas le dire avec les mots. Je ne peux pas le dire avec les mots. Je peux pas non plus le dire sans les mots. En synchro avec la team, je m'envole vers de bonnes actions. Dans les sous-sols du système, je croise l'inconnu de l'équation. J'apprends des tricks de pro, m'apprête près des têtes de pro. aiguiser mon exigence, égaye mon existence. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me le demande aussi. Alors je tourne autour du pot, un peu du père, je ne peux pas dire que je ne sais pas trop. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, le silence n'est pas un souci. Parce qu'au fond de moi, je sais, mais je ne peux pas le dire avec les mots. Je ne peux pas le dire avec les mots. Je peux pas non plus le dire sans les mots. Je ne peux pas le dire avec les mots. Je peux pas non plus le dire sans les mots. Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi. Des choses que tu ne vis pas. Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission qui guide mes pas, en même où je ne suis pas. Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi. Des choses que tu ne vis pas. Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission qui guide mes pas, m'emmène où je ne suis pas. Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi. Des choses que tu ne vis pas. Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission qui guide mes pas.
Christine Le Guérec.
Ah bon? Elle est bretonne?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.